Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team et je tiens à dire cette semaine que j'ai éliminé un concurrent qui préparait un putsch dans mon dos depuis deux semaines. Oui, il faut que tu rendes les armes, etc. Donc Martin Mosnier pour les fidèles, qui n'est pas là puisque Cyril Morin est là pour le remplacer.
Ouais, mais j'ai été appelé sur le gong. J'ai vraiment l'impression d'être une recrue sauce Longoria du 31 janvier à 23h50.
Qu'on ouais, sauf que j'ai fait comme dans un bon thriller américain, un film de mafia. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai éliminé Martin. Ouais. Je ne sais pas, mais on a travaillé en sous-main. Ouais, il faut que tu laisses la place, etc. J'ai dit oui, Martin, t'as raison. Et puis là, tac, une tête a roulé. C'est pas la mienne, c'est celle de Martin. Voilà,
si vous lisez Eurosport.fr, vous savez que Martin, maintenant, il est spécialiste ping-pong, surtout.
C'est ça.
Donc, le football, il s'en est un petit peu éloigné. Ses avis, on les a vus récemment, c'était pas au niveau
ouais,
de ce qu'il
alors, il n'en a jamais été très proche non plus. on va pas reparler du sujet sur la CAN. un grand sujet qui marquera l'histoire de cette émission. Il nous avait fait ses pronos qui étaient vraiment de qualité. Alors, je sais ce qu'il va dire. Il va dire oui, la Côte d'Ivoire va peut-être aller au bout. Ouais, bon, après, il y a le fond et la forme. Voilà. Merci Martin. En tout cas, merci Martin pour tout ce que tu as fait depuis le début de cette émission. Ça faisait 6 ans, c'était génial. On a bien profité. On va te faire un best-of. Tu auras sûrement des vidéos hommages comme dans les salles NBA. Mais bon, je pense que tu as fait ton temps. Voilà, ouais, merci.
On va pas retirer ton numéro de maillot pour le coup.
A priori, non, ou le zéro.
Ouais. Bon, de quoi parlons-nous aujourd'hui?
Alors, déjà, il faut le dire. On est en public,
c'est
encore,
vrai,
parce
c'est
que
vrai.
C'est, je crois que c'est peut-être la dernière fournée de l'année de stagiaires 3e
okay.
qui nous accompagnent. Et comme d'habitude, ils sont bien sages. On leur a dit de surtout pas faire de bruit. Il y a deux tousseurs.
Ouais. Alors, ils sont 9, hein, donc là, on est vraiment encerclé au moment de l'enregistrement.
Là, on
peut
pas
dire de bêtises.
Il va faire 800 degrés ouais. dans 5 minutes.
C'est clair.
Et comme d'habitude, donc, si vous voulez venir parler et même rebondir sur les bêtises qu'on dirait ou les choses qui vous ont plu, vous venez donc après chaque sujet. On vous proposera, évidemment, vous n'êtes pas obligé de venir. Le but, c'est pas de vous afficher, même si, par exemple, Martin, lui, il est là toutes les semaines, il s'affiche toutes les semaines et il le vit très bien.
Bon, Maxime, on va parler aujourd'hui football, évidemment, dans l'FC Stream Team. Trois sujets qui se détachent aujourd'hui dans l'actualité. Le premier, les brûlants, c'est évidemment le cas du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain, puisque vous l'avez sans doute lu, Nasser El Khelaïfi a déclaré jeudi, en marge de la conférence à l'UEFA à Paris, ouais. que le Parc des Princes était fini pour nous, sous-entendu pour le Paris Saint-Germain. Le PSG va-t-il vraiment quitter le Parc des Princes? On discutera de tout ça avant d'aller voir l'Olympique de Marseille.
Oui, alors si Martin était là, il dirait c'est encore moi, mais Martin, ce n'est pas moi qui ai proposé le sujet, je te promets. On va parler du cas Klos et tout simplement, après l'avoir mis dehors quasiment, l'OM propose maintenant potentiellement de le prolonger. De qui se moque-t-on?
Et le dernier sujet, ce sera le troisième gros peut-être de ce championnat, mais qui ne voit pas encore les hauteurs, c'est l'Olympique lyonnais. Et on va poser une question qui peut paraître peut-être provocante au premier abord, puisque Lyon lutte toujours pour le maintien, mais on va se demander si finalement Lyon ne pourrait pas terminer européen via la Ligue 1 cette saison.
L'émission est à retrouver sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast, Acast, Deezer, Apple Podcasts, etc. Vous mettez 5 étoiles, vous notez, vous nous dites si Martin vous manque. Et d'ailleurs, s'il n'y a aucun commentaire sur Martin,
on en tirera les conséquences
qui s'imposent. Voilà, donc on va démarrer.
Il serait capable de créer des faux comptes pour aller mettre des commentaires.
Ouais, enfin, après, quand ça va être 42 ou
on saura, green, on machin, saura distinguer.
On va à peu près savoir qui c'est. Voilà. Et s'il y a 2-3 coquilles aussi. Ah, c'est la fête de Martin. Moi, je suis pas là la semaine prochaine. Donc,
ah, bon, bah voilà.
C'est pour ça que je me balance un champ de mine. Voilà. Mais d'ailleurs, il est là la semaine prochaine, Martin?
Je sais plus. Je sais que je suis là. Je crois que je suis avec Julien, peut-être.
Ouais, parce que lui, tranquille, il est en vacances tout le temps.
Oui. Bon, comme d'habitude. Maxime, le gros sujet, donc, le Paris Saint-Germain va-t-il quitter le Parc des Princes? C'est un petit peu un serpent de mer qui revient à intervalles réguliers dans l'actualité footballistique. Mais ce jeudi, il y a eu un pas de plus. Un peu plus loin de la part de Nasser El Khelaïfi lors de la conférence à l'UEFA à Paris avec cette phrase « Le parc, c'est fini pour nous ». Grosso modo, le PSG considère que le dossier a trop traîné. Il a acté le fait que le Parc des Princes ne lui serait pas vendu par la mairie de Paris. Et il veut accélérer le tempo pour avoir son propre stade, être propriétaire de son stade et enfin avoir les coups des franges dans ce dossier. D'où cette question, Maxime. À ton avis, Paris va-t-il quitter le Parc des Princes ?
Alors la question de base, c'était va-t-il ou doit-il ? Oui. Donc moi, j'ai fait une dichotomie entre les deux questions. Déjà, le coup de pression, à partir du 25e coup de pression, ça marche un peu moins bien. Il faut rappeler que dans l'intervalle de ce rachat voulu du Parc des Princes par le PSG, il y avait aussi une prise de position sur le Stade de France. Le PSG ne s'est pas positionné, donc ça fait un peu pchit. Mais n'empêche que c'est un vrai problème. Et déjà, il faut expliquer pourquoi le PSG aurait intérêt ou pas, enfin veut quitter le Parc des Princes. L'idée, c'est bête, c'est de l'agrandir. Alors, ouais. C'est pas de l'agrandir, de passer de 48 000 places, qui est quasiment modeste, on va dire, pour un club de la taille du PSG, à 90 000. Non, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de rentabiliser les soirs de match, pour faire simple, et ce qu'il y a autour. Je vais vous donner un exemple tout bête. La Juventus, pendant des années, entre la Coupe du Monde 90 et 2010, a joué dans un stade, un nouveau stade qui s'appelait Stadio delle Alpi, 70 000 personnes. Eux, il y avait un autre problème, c'est qu'ils ne le remplissaient pas et qu'ils n'avaient pas d'âme, ce qui n'est pas le cas du Parc des Princes. Mais la Juve s'est dit à un moment, il faut changer parce qu'on n'y arrive pas dans ce stade-là. Ils ont construit un stade plus petit, le Juventus Stadium, donc l'Allianz Stadium aujourd'hui, 41 000 places. Sachez que les recettes du club sont passés sur le stade de 11 millions à 83 millions. C'était la dernière saison après le Covid. Donc, vous voyez un peu la différence. Et comment la Juve a gagné de l'argent avec son nouveau stade et ce que le PSG veut faire ? Bah, tout simplement, ce n'est pas en mettant 40 000 supporters de plus. Non, c'est en créant des loges. Si vous prenez l'avion, vous vous rendrez compte que dans un avion, il y a beaucoup de places économie qui ne rapportent pas énormément et il y a très peu de places qui sont en business et en première qui rapportent beaucoup de places. Mais en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le PSG veut faire des travaux dans son stade mais ne peut pas parce qu'il n'est pas propriétaire du stade. Le PSG avait proposé à un moment de le racheter pour 46 millions. Il y avait une sortie d'un des adjoints à la maire de Paris qui avait dit en gros, vous achetez Paredes pour 47 millions, vous foutez de nous. Voilà. Donc en gros,
la comparaison était bien trouvée.
Voilà, c'était assez marrant, c'était bien trouvé. Bon, on en pense qu'on en veut. Mais alors, est-ce que le PSG doit quitter le Parc des Princes ? Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la raison et les sentiments. La raison, si on prend les sentiments, évidemment que non. Parce que le PSG, la maison du Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Si vous êtes déjà venu au parc, si vous êtes déjà passé en dessous le parc qui est sur le périph' depuis 50 ans, c'est un stade formidable. Il a une architecture à nul autre pareil. Aujourd'hui, les stades sont calibrés de la même manière. On les voit, tous les stades modernes, l'Emirates, etc. Dès que vous allez dans ces stades-là, quand vous en avez vu un, vous en avez vu 10. Le Parc des Princes, c'est autre chose.
L'acoustique particulière.
Et c'est une vraie œuvre d'art. Alors, l'extérieur, il peut paraître un peu cradouille avec la pierre, mais c'est un stade qui ne ressemble à aucun autre. C'est la maison du PSG. C'est un club qui a besoin d'authenticité. QSI a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain sur les titres et sur le niveau sportif. Mais sur ce qui est authentique, on ne peut pas en dire autant. Donc, quitter le Parc des Princes, ce serait ça. Le CUP, aujourd'hui, s'est positionné. Évidemment, eux veulent rester au parc. Et ils ont dit qu'ils étaient favorables à un Parc des Princes de 60 000 places, respectant l'âme du club qui est dans les cartons, en fait. Ils veulent pas que le club quitte le Parc des Princes, mais ils n'en veulent pas seulement au club, si ça se faisait. C'est aussi à la mairie de Paris qui joue un double jeu. Voilà. Maintenant, si on passe sur la raison, des raisons, oui, évidemment, le club aurait intérêt à avoir un nouveau stade. Ce fameux stade moderne autour duquel vous mettez des kilotonnes de boutiques, où vous avez des loges un peu partout. Mais pour ça, il faudrait quitter la capitale. Allez, pour l'instant, on parle de Montigny, le Bretonneux ou Poissy. Mais ce sera un stade tout nouveau. Je ne sais pas s'ils le feront. Je ne suis pas certain parce que, encore une fois, je pense que les coups de pression successifs suivent et à un moment, il ne se passe rien. Mais en tout cas, le PSG est un peu coincé entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire les sentiments et la raison.
Il y a peut-être des petits détails qu'on peut glisser par-ci par-là. Déjà, dire que c'est dans ces dossiers-là qu'on se rend compte que Jean-Claude Blanc avait un rôle quand même très important au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on n'en serait pas venu à ce niveau de violence verbale et de coups de pression si lui avait été là. Il avait une place prépondérante dans les dossiers un petit peu politiques et administratifs. On va rappeler aussi que le Paris Saint-Germain a accueilli un actionnaire minoritaire américain, Arctos, récemment. Et Arctos, ils sont plutôt spécialistes de ce genre de projet-là et ils poussent pour que Paris devienne propriétaire de son stade. Et on va enfin rappeler que Paris, légalement, a un contrat qui court jusqu'en 2043 pour jouer au Parc des Princes, mais que Paris pourrait très bien décider, enfin le PSG en l'occurrence, pourrait très bien décider de ne plus jouer au Parc des Princes et de payer un loyer. Une fois qu'on a dit tout ça, moi je pense que le Paris Saint-Germain se trompe un petit peu de combat. On a beaucoup critiqué la mairie de Paris, mais je vois mal quel politique français accepterait, quel que soit son bord politique, de vendre le Parc des Princes à une entité étrangère, a fortiori aux Qataris, malgré leur implantation en France, malgré tout ce qu'ils ont pu faire pour le club. Je pense que politiquement, il n'y aura aucun homme politique ou femme politique française qui aurait ce courage ou cette volonté-là. Et pour en revenir au cœur du débat, je ne m'imagine pas Paris ailleurs qu'au Parc des Princes. Tu as parlé de Montigny, le Bretonneux. Il y a quelque chose que QSI a beaucoup réussi depuis qu'ils sont là, c'est de créer ce côté marketing où quand on pense à Paris aujourd'hui, on associe le PSG. C'était pas forcément le cas il y a 15 ans auparavant. Maintenant, le Parc des Princes, et on l'a suffisamment critiqué aussi récemment, est devenu presque un passage obligé touristique. Est-ce que vous imaginez vraiment des touristes chinois, japonais, indiens venir à Paris, se dire, bah, comme quand on va à Londres, on va voir un match à l'Emirates, bah là, on va aller voir un match à Montigny-le-Bretonneux? Je pense que la puissance du mot Paris et la puissance de l'implantation dans la capitale parisienne est beaucoup trop importante pour que Paris sorte de la capitale. Et à mes yeux, c'est impossible de quitter le Parc des Princes pour toutes les raisons que tu as évoquées. En termes d'identité, ce serait un changement qui serait drastique et à mes yeux dramatique.
Non, mais il y a trop de crispation autour de cette histoire de toute façon. Je ne suis pas sûr que ça puisse changer avant la prochaine municipale pour le coup. Alors la meilleure chose qui pourrait arriver quasiment au Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi, c'est que la droite passe.
Oui, mais même je ne suis même pas
Rachida
sûr.
Rachida Dati, maire de Paris.
Ouais. Avec politiquement, c'est des coups.
Mais l'oreillette avec Nicolas Sarkozy, je pense que ça peut fonctionner. Mais après, moi, je ne suis pas certain qu'ils ne le vendraient pas parce que, après tout, il y a plein de palaces qui ont été vendus à Paris à des investisseurs étrangers. Et après tout, alors peut-être qu'il y a une force symbolique, mais après tout, je ne sais pas si c'est une force symbolique plus importante qu'un palace. Voilà, je ne sais pas, en fait, pour le coup. Alors moi, je vais dire oui parce que j'aime le foot, mais pour le Parisien lambda, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Moi, j'imagine quand même... Je ne pense pas que le PSG quittera le Parc des Princes. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais les coups de pression successifs, à un moment, si 10 fois je te mets un coup de pression et qu'il ne se passe rien la 11e fois, c'est que tu vas dire, bon les gars, tu essayes d'avoir quelque chose que tu n'as pas et tu n'as pas envie de partir. Surtout qu'il faut le dire, faire un stade, c'est bien, mais un stade, ça ne sort pas de terre en 2 minutes. Donc il y a un moment...
Minimum 5 ans. Voilà, minimum, grand minimum.
Et avec un stade, il y a aussi... C'est parce qu'un stade, ce n'est pas juste un truc que vous mettez qui sort de terre. C'est l'accessibilité. Exactement. Comment on va au stade, les
Montigny,
transports,
Poissy,
voire des nuitées. Alors, il y a les réseaux RER, tout ça, mais ce n'est pas aussi simple. Vous allez... des exemples de stades. Lyon, l'accessibilité au stade, au départ, c'est très compliqué. Le tramway, etc. Parce que vous êtes obligé d'aller en dehors. Donc, il faut trouver le lieu... C'est pas si évident. Moi, je sais qu'à un moment, on a parlé d'un bail emphytéotique de 99 ans. C'est ce qui me paraît un peu la bonne solution. C'est-à-dire que 99 ans, ça équivaut à un bail à vie parce qu'évidemment, il n'y aura personne pour voir où ça en est dans 99 ans. Et puis, ça permettrait au club de faire des travaux sans dépenser le prix d'achat du Parc des Princes. Je ne sais pas l'évaluation d'un stade comme
c'est
ça.
C'est très dur.
Ouais. En tout cas, moi, pour le coup, je suis d'accord avec la mairie. Ça ne peut pas être 46 millions. Ça serait stupide. Mais moi, je pense vraiment pas que le PSG quittera le Parc des Princes. Et c'est même souhaitable qu'il ne le quitte pas, je trouve, pour son identité.
C'est un peu la dernière relique, finalement, de ce qu'est le PSG pré-QSI. On se souvient qu'ils ont quitté le camp des loges avec le nouveau camp au Redoux. C'est peut-être le dernier vestige de l'identité parisienne. Et je pense même que... Alors, ça n'importera pas forcément les décideurs parisiens qui seront plus concentrés sur les nouvelles loges qui rapporteront beaucoup. Mais c'est un choix qui pourrait faire perdre au Paris Saint-Germain son implantation parisienne dans le cœur des supporters. Je pense que les plus historiques qui sont déjà, à mon avis, un petit peu éloignés du club se retourneraient définitivement parce que là, ils perdraient un symbole beaucoup trop important.
Puis c'est un rituel, le Parc des Princes, c'est dans le 16e arrondissement, c'est tout son environnement. Les soirs de match, c'est particulier. Évidemment, tout est fait pour changer. Highbury, vous alliez à Highbury, le stade était formidable avec l'horloge, avec les coins. Ils se sont déplacés de quelques rues et tout le monde s'y est fait. Mais n'empêche que je pense que dans son souci d'authenticité, la différence, c'est qu'un club comme Arsenal n'a pas perdu son authenticité en changeant de stade. Là, ça ferait beaucoup, en plus du logo, en plus de ceci, de cela, de quitter le Parc des Princes. Voilà. Mais moi, mon prono, si je veux en donner un, c'est qu'il ne partira pas.
Qui a un avis dans la salle ?
Qui a un avis dans la salle ? Qui est déjà allé au Parc des Princes ?
Quelqu'un veut parler ? On a quatre mains qui se sont levées.
Quelqu'un veut parler de son
expérience
au Parc
des Princes ?
Qu'est-ce que vous pensez du Parc des Princes ? Alors, si vous voulez, il faut venir là et parler dans le micro. Allez. Alors, comment tu t'appelles déjà ?
Alors moi je m'appelle Enzo.
Ouais.
J'ai déjà été une fois pour au Parc des Princes pour voir PSG Lens, c'était en 2022. Et je trouve qu'il y a une atmosphère spéciale autour du stade. On reproche souvent au PSG de pas avoir d'âme, de pas avoir de projet sportif. Et vendre un stade comme celui-ci, ce serait comme donner raison aux gens dans un sens. Je pense que vendre un stade mythique qui a une âme, quand les supporters vont là-bas, c'est pas pour rien, c'est un déplacement, les ultras, les tribunes, il y a tout qui évoque le PSG. Et je pense que vendre un stade comme ça, ce serait une mauvaise décision de la part du Paris Saint-Germain, surtout avec des reproches comme ceux des supporters, avec par rapport à l'âme du club et tout ça.
Là, t'as fait parler ton cœur.
Ouais.
Oui.
Ah, t'es parti
Mais
dans
t'es
un tunnel.
T'es meilleur que Martin.
Ouais, t'es meilleur que Martin. Si tu veux revenir la semaine prochaine.
Ok.
Ça va très bien.
Eh ben, on a fait le tour, je crois.
Après le PSG, place à l'OM, non pas le Stade Vélodrome, même si on surveillera de près l'accueil réservé à Jonathan Clauss et même aux autres Marseillais vendredi soir face à Metz. On va parler de Jonathan Clauss parce que vous avez entendu que ces derniers jours, il était autour d'un mini tourbillon. L'OM a essayé de le faire partir à deux jours de la fin du mercato. Drôle d'affaire. Et là, maintenant, dans l'équipe, on apprend au détour d'un papier sur lui que l'OM songerait à le prolonger. Cyril, de qui se moque-t-on ?
Bah de Jonathan Clauss, j'ai l'impression. Hein. On va refaire un petit peu la chronologie. Donc le 27 janvier, Jonathan Clauss sort face à Monaco. Il est touché au genou. Il pense à ce moment-là lui être blessé assez gravement. Finalement, le staff médical le rassure rapidement. Et dans la nuit du 27 au 28, Mehdi Benassia, qui est donc le nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria, a envoyé, selon les infos de l'équipe, une note vocale plutôt acerbe à l'entourage de Clauss en lui disant « Tu ne joueras plus jamais sous le maillot de l'OM ». C'était opération exfiltration de Jonathan Clauss, lancée le 29 janvier, c'est souvent brillant comme genre d'idée. Évidemment, personne n'est venu chercher Jonathan Clauss, parce qu'un joueur de ce niveau-là ne s'exfiltre pas en deux jours, malgré toutes les bonnes relations de Pablo Longoria sur le marché. Résultat, Clauss est rentré face à Lyon. Ça a été le meilleur Marseillais. Ce n'était pas très compliqué. Et on apprend donc que Marseille voudrait, pourquoi pas, prolonger Jonathan Clauss aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a un contrat qui se termine en 2025 et que donc, en cet été 2024, il devrait être vendu si d'aventure il ne prolongeait pas son contrat. C'est aberrant, voilà. Ma réaction, c'est ça. C'est aberrant c'est presque de l'amateurisme, en fait. De croire que on peut se débarrasser d'un joueur comme ça en trois jours sur le mercato pour derrière le récupérer à la fin du mercato quand on n'a pas réussi à le vendre en lui disant « Mais non, en fait, c'était quelque chose de médiatique, c'était monté dans tous les sens, on a envie de te prolonger. » Non, évidemment que non. Et Jonathan Clauss, il va faire la chose la plus intelligente qui s'offre à lui, c'est-à-dire finir la saison comme il peut, aussi bien qu'il peut, potentiellement prétendre à une place à l'Euro et aller chercher ailleurs l'été prochain. Ils ont eu tout faux sur toute la ligne dans ce dossier, les dirigeants marseillais. Et c'est une pierre de plus dans le jardin de Longoria qui commence à être décidément bien chargé.
Ouais, en fait, de qui se moque-t-on ? J'ai envie de dire de personne. Pourquoi ? Parce que c'est le milieu du foot. Voilà, j'ai essayé de réfléchir à le pourquoi du comment il s'est passé ça. C'est tout simplement, par l'absurde encore une fois, bienvenue dans le monde du football, ses arcanes, ses coulisses, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, où on vous dit à deux jours de la fin du mercato qu'un joueur international français qui est possiblement le meilleur Marseillais ou au moins le plus utilisé sur la première partie de la saison est en vente. Pourquoi ? Parce qu'il ne se donnerait pas à fond, il aurait déjà la tête à l'euro. Alors déjà, si vous êtes vendeur et que vous me dites ça, je vais dire « Bon, bah non, je ne vais peut-être pas l'acheter maintenant, ça n'a aucun intérêt. » En fait, j'ai l'impression que derrière ça, il y a une victime, au fond, c'est Jonathan Clauss. Alors pourquoi je dis victime ? J'ai l'impression que c'est une lutte d'influence entre le club et l'entourage de Clauss. Qu'est-ce que ça cache derrière ça ? C'est une histoire de thunes, tout simplement. Il y a une prolongation, il y a de l'argent à se faire. L'entourage fait savoir que le Bayern et le Barça seraient intéressés par le joueur. Longoria appelle le Barça pour vérifier. Dans quel monde un président de club appelle un autre club pour savoir si
ils ont vraiment
il veut acheter voilà. Non, l'appeler, c'est de dire à l'entourage « Non, vous ne voulez pas nous la faire. Il n'y a personne qui veut de votre joueur. » En fait, c'est un rapport de force. Et je ne serais pas étonné qu'on apprenne d'ici peu que voilà, c'était une histoire pour essayer de faire monter les enchères d'un côté. Donc le Marseille avait intérêt de son côté à dire bah « Non, mais personne n'en veut. De toute façon, on va le vendre. Hein, » voilà. Donc voilà, il n'est pas si bon que ça, finalement. Voilà. Mais comme tu dis, c'est, je sais pas si c'est de l'amateurisme, mais c'est catastrophique. Et en plus, là, pour le coup, je me mets à la place de Klaus, qui est peut-être pas non plus tout net dans cette histoire.
Bien sûr.
Ça le met en porte-à-faux, l'OM, dans
c'est
une situation
sportive. C'est pour ça que je parlais d'amateurisme, c'est qu'en fait, ils ont le risque potentiellement de perdre leur joueur sur les 6 mois qui viennent, juste pour une action qu'ils ont déclenchée eux-mêmes.
Et ça se passe mal en ce moment. Contre Metz, on ne connaît pas l'accueil du match. L'émission est enregistrée vendredi après-midi. S'il est mal accueilli, c'est lui qui en prend plein la poire parce qu'il est symbolisé comme étant le responsable des difficultés marseillaises du moment, c'est terrible. Mais j'ai quand même je fais une petite aparté. J'ai quand même l'impression actuellement que la direction de l'OM, voire même Gattuso, se défausse un peu sur les joueurs. La fameuse réunion avec les supporters lundi, qui a été un peu initiée par Gattuso, il n'y avait pas de dirigeant. On avait l'impression que c'était d'ailleurs, Gattuso disait aux supporters « Allez les gars, mettez-leur un bon coup de pression. Voilà. » que les joueurs soient responsables des résultats de l'OM, c'est une chose.
Forcément.
Mais que derrière, tout le monde se planque maintenant, je trouve ça un peu costaud, voilà, un peu détestable. Et je tiens à dire quand même, parce qu'il faut le dire, l'OM avait très bien fini l'année. Ça, c'est sûr. C'était beaucoup mieux. Enfin bon, c'était Rennes qui n'allait pas bien, l'OL qui n'allait pas très bien, Lorient qui n'allait pas très bien, Clermont qui n'allait pas mieux, et finalement un match nul contre Montpellier. Donc il faut toujours faire très attention au calendrier et aux dynamiques. Il y a des points que vous devez prendre qui sont naturels à prendre. Et vous vous rendez compte que quand la pente est un peu plus raide, ça devient plus difficile. Voilà. Je pense que l'OM a perdu encore une fois une occasion de gagner du temps. Et que voilà, je suis désolé, mais les pierres dans le jardin de Longoria, ça commence à faire beaucoup. Et pareil, encore un aparté, mais j'ai lu, il a donné une interview dans SoFoot.
Ouais.
Je sais pas. C'est pas le football, c'est pas des mathématiques. À un moment, il explique qu'il a des joueurs d'années 93-94, donc il en faut d'années un peu plus jeunes pour les valoriser. En fait, j'ai l'impression que le terrain est presque secondaire autour de la construction, et je l'ai entendu dire aussi, pour construire, il faut de la stabilité.
Eh ben, il serait bien inspiré.
Il y a 6 mois, il disait qu'il faut remplacer 50% des joueurs. Et au-delà de ça, une autre chose moi, qui m'interpelle vraiment, au-delà des prolongations, Luis Enrique. Le type est revenu depuis 3 semaines. En gros,
tu vas faire un point sur tous les joueurs de l'OM, j'ai l'impression.
Il a fait 2 matchs, pendant lesquels il n'a pas été forcément bon. Il avait été prêté pendant 1 an et demi. Qu'est-ce qu'on entend? Ah ben, ils vont le prolonger. Non mais ça, c'est la preuve qu'il n'y a rien qui va. Et à quel moment il faut prolonger Luis Enrique après 2 matchs? Et je ne dis même pas 2 bons matchs, après 2 matchs. Vous ne voulez pas attendre le mois de mars, le mois d'avril, qu'il fasse autre chose que ce qu'il a fait? Je rappelle que son premier passage n'était pas terrible. Voilà. Donc en fait, voilà, j'ai l'impression que ça marche un peu sur la tête. Et pour faire la bascule, ce dossier Klaus en est vraiment la preuve ultime. Je crois que j'ai rarement vu ça, l'OM.
Ce qui est incroyable aussi, c'est de se pencher sur la suite. Donc, on a parlé d'une possibilité de prolongation. J'ai un gros doute sur le fait que Jonathan Klaus l'accepte. Il a 31 ans. C'est pas forcément le joueur le plus reluisant, mais il évolue à un poste qui, malgré tout, est sinistré au niveau mondial. Quand vous voyez que le Bayern Munich met 30 millions sur Sacha Boé cet hiver... Ouais. Qui est un joueur qui a moins de références que Jonathan Klaus du plus haut niveau, même s'il joue il a joué la Ligue des Champions avec Galatasaray. Il est plus jeune, certes, mais voilà, on est sur un poste très particulier. Et à mes yeux, ce qu'a fait l'OM là, c'est simplement pointer du doigt à tous les clubs qui pourraient être intéressés. Bah, regardez, il y a un dossier Klaus à l'OM qui s'est ouvert tout seul grâce à la direction. Il est en opposition avec sa direction. Sur le terrain, ça se passe pas incroyable. C'est peut-être la bonne affaire à aller chercher. Et c'est peut-être le joueur le mieux valorisé de l'effectif de Marseille aujourd'hui, si je réfléchis. Enfin, en tout cas, un des meilleurs. Et Marseille va peut-être réussir à mettre un petit coup de canif à sa valeur réelle, juste en le pointant du doigt. Très surprenant.
Mais ça prouve que aussi l'OM est un peu coincé avec Klaus. C'est-à-dire que la mode aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller au bout du contrat pour aller chercher une grosse prime à la signature. Il lui reste 1 an et demi de contrat. Il a aujourd'hui une vraie valeur sur le marché, tu l'as dit, c'est des postes sinistrés. Il a prouvé qu'il pouvait jouer à 4 derrière ou à 3, donc ça c'est plutôt un avantage. Donc il peut, en fait, lui, là, qu'est-ce qu'il a à perdre? Soit il prolonge avec un bon pactole, d'ailleurs Longoria qui a dit qu'il avait des bonnes conditions en conférence de presse, c'est pas des trucs qui se disent trop. Je trouve ça, encore une fois, ça participe à le mettre en porte-à-faux le joueur. Donc soit il a sa prolongation qu'il veut avec son entourage, donc avec une somme qui lui irait bien. Sinon, qu'est-ce qu'il peut dire? Il dit « Ok les gars, moi je reste, 1 an et demi de contrat, je vais au bout de mon contrat et puis je pars. » Donc en fait, l'OM est un peu coincé, mais ça, c'est pas propre à l'OM. C'est-à-dire, il y a plein de clubs qui se retrouvent dans cette situation-là. Regardez le PSG avec Mbappé. Le risque de la fin de contrat, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une position. On sent que l'OM qui a perdu un peu ses nerfs, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que, bah, est-ce qu'ils ont vraiment la main sur le joueur aujourd'hui ? Non, plus vraiment. Et lui, il a deux opportunités : soit gagner beaucoup d'argent à l'OM s'il prolonge, ou espérer une bonne prime à signature et un bon, même dernier contrat dans un club, pourquoi pas à l'étranger.
On va terminer cette émission, Maxime, par parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais, qui s'est imposé dimanche dernier face à l'OM, notamment, mais qui sort aussi peut-être de son match le plus abouti de la saison en Coupe de France. Et cette victoire face à Lille, 2-1, abouti parce qu'il y avait des nouveaux visages qui ont répondu présents d'entrée. Je pense à Orban, je pense à Mangala. Matic aussi avait été très bon face à l'OM. Et on va se poser cette question parce que finalement, la dynamique peut vite basculer. Est-ce que Lyon peut terminer européen via la Ligue 1, Maxime ?
Non. Non, ça me paraît quand même dur. Et puis, de toute façon, au-delà de ça, avant de dire ça, moi, je me méfie toujours des tendances courtes. Évidemment qu'il y a un mieux. De toute façon, ça pouvait difficilement aller plus mal. Il y a 2 victoires contre l'OM en Coupe de France. Après un mercato où l'OL a sinon drastiquement changé de visage, au moins récupéré pas mal de renforts. Je rappelle qu'au mois de décembre, ça allait mieux déjà. Oui. Victoire contre Monaco, contre Toulouse, contre Nantes et Pontarlier en Coupe de France. Non, ça c'était à la rentrée, mais enfin bon, bref, il y avait 3 victoires de suite en championnat. Donc déjà, il y avait un redressement. Qu'est-ce qu'on a vu à la rentrée ? C'est que ça allait pas mieux. Donc c'est le propre de ces équipes qui sont en bas du classement, c'est de connaître des moments de bien et de moins bien. Et je trouve qu'on est, autant on a été catastrophique peut-être à raison quand ça allait très mal, que là je ne m'enflammerai pas quand ça va mieux. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que contre Lille, si vous comparez les matchs contre l'OM et Lille, il y a quasiment deux 11 différents. Je crois que contre Lille, il y a 5 joueurs qui sont reconduits dans un système différent. Alors moi, qu'est-ce que je retiendrai de ça ? C'est que l'OL a peut-être trouvé des renforts.
Ah, ça, c'est sûr.
Voilà, ça, c'est certain. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que l'OL a trouvé un 11, tout bêtement. Parce que la problématique va être la même pour Pierre Sage de celle dont on parlait, je crois, la semaine dernière avec Martin. C'est que vous avez un effectif avec une mosaïque de joueurs qui s'est développée, mais dont on ne sait pas encore comment les faire fonctionner ensemble. Parce que vous avez 2 équipes différentes qui ont gagné. Quelle sera la prochaine ? Et comment ça fonctionnera ? Alors, je pense qu'il y a 2-3 idées. Gift Orban, etc. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites de Cherki, par exemple ? Parce que, OK, alors, on a vu partout. Oui, super, il était sur les 2 buts. J'ai l'impression que c'était le retour du Messi.
Ouais, pas sûr.
Mais très bonne réaction, je trouve, de Pierre Sage en conf de presse qui, à sa manière, mais assez clairement, a dit que c'était un joueur particulier, qu'il fallait faire parfois preuve de patience, parfois lui dire les choses, ce qui veut dire que lui ne s'enflamme pas et c'est la meilleure chose. Voilà. Maintenant, la mission de Pierre Sage, je trouve qu'elle a un petit peu évolué parce que, évidemment, avec 1 ou 2 semaines de plus, il commence à connaître un peu mieux les joueurs. Mais ça va être de trouver le bon équilibre. Qu'est-ce qu'on fait de Tolisso qui était à la rue le week-end dernier ? Est-ce qu'il est relancé ? La Cazette, j'ai pas trop de doutes. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on joue à 3 derrière ? Est-ce qu'on joue à 4 derrière ? En fait, voilà, je trouve que sa mission est la même. C'est bien d'avoir gagné ces 2 matchs parce que, bah, évidemment, vous allez à l'entraînement avec le sourire. Mais je pense que la mission n'est pas moins compliquée aujourd'hui pour Pierre Sage.
Ouais, la mission n'est pas moins compliquée. On va rappeler quand même qu'il y a 19 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises, entre Lyon qui est 16e et Lille qui est 4e. La 6e place est qualificative pour la Ligue Europa Conférence. On ne va pas tourner autour du pot. La plus grande chance de Lyon d'être européen, c'est la Coupe de France. Voilà, les Lyonnais sont qualifiés pour les quarts de finale. Évidemment que ça se passera par là. Et d'ailleurs, je pense que cette équipe ressemble presque plus à une équipe de coupe qu'à une équipe de championnat. Malgré tout, dans ce qu'on a vu face à Marseille et face à Lille, il y a plusieurs choses nouvelles. Les systèmes choisis par Pierre Sage résultent de vrais choix. Là où parfois c'était beaucoup plus subi et les joueurs étaient mis là parce qu'on n'avait pas trop d'autres solutions. Et c'est sûr que quand sur votre banc vous avez Gift Orban pour remplacer Alexandre Lacazette plutôt que Tino Kadewere, bon bah le gap qualitatif il est assez net. Et c'est pareil pour Nemanja Matic qui sort du banc face à Lille. Bon bah oui, quand il rentre, c'est pas pareil que de faire rentrer Maitland-Niles à ce poste où il était un petit peu perdu par exemple. Donc il y a quand même un vrai renfort en termes d'effectifs. Je suis d'accord avec toi, Pierre Sage a trouvé beaucoup de choses positives. Et il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler, qui est le lot de beaucoup d'équipes qui vont mal. Lyon a connu un début de saison où rien ne tournait jamais dans leur sens. Quels que soient les matchs, quelles que soient les situations, rien n'était positif. La frappe qui doit rentrer de peu, bah, finalement, elle passe de peu à côté. À l'inverse, Lyon a pris des buts plus somptueux les uns que les autres, de temps en temps avec des frappes venues de 35 mètres. Ça n'arrive pas tous les week-ends, mais il y a un moment, quand vous êtes une équipe en difficulté, bah, la loi presque fait que ça vous tombe toujours dessus. Lyon semble un petit peu être sorti de cette spirale-là. Et si d'aventure le mojo revenait, si d'aventure il pouvait avoir des signes un petit peu plus positifs, on l'a vu dans cette Ligue 1, ça peut aller très vite. Et on a regardé le calendrier avec Maxime. Il y a 4 matchs qui attendent Lyon. Montpellier ce week-end, Nice à domicile, Metz le week-end d'après et Lens à domicile de nouveau. Il y a 2 gros et 2 faibles, ou 2 équipes en crise.
2 gros à la maison en plus.
Et 2 gros à la maison. Si Lyon, au sortir de cette 24e journée, a réussi à faire du 9 sur 12 ou du 10 sur 12, on aura peut-être de nouveau le débat parce que la place dans le classement aura largement évolué. Et quand vous voyez les écarts minimes qu'il y a dans ce championnat, bah une série peut vite se lancer et peut vite permettre à d'autres de grimper très vite. Et regardez Monaco, c'est l'exemple parfait, mais dans le sens inverse. La dynamique est enclenchée vers le bas et on se demande bien comment ils vont réussir à remonter. Donc c'est faisable, mais il faudrait quand même un sacré finish pour accrocher à minima la 6e place.
Ouais, et au-delà de ça, c'est marrant, si tu parlais des buts somptueux, etc. Bah, symboliquement, contre Marseille, ils sont à 2 doigts et à 3 secondes de prendre un lob incroyable. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu tapes de...
Et il y a un sauvetage où il dégage sur la barre.
Et sauvetage, mettre l'en aille sur la barre. Donc voilà, y a peut-être que ça tourne aussi symboliquement. Moi, je pense que oui, l'OL au moins a récupéré de la confiance, un sourire. Et au-delà d'espérer être européen via la Ligue 1, moi, j'y crois pas. Mais ces 4 matchs-là, au moins, ils peuvent servir à l'OL à se remettre vraiment à l'abri et de se dire, bah, en gros, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 3 matchs à gagner pour jouer une Coupe d'Europe. Et peut-être voir même gagner un titre. Et ce serait quand même presque un miracle, mais c'est possible. Voilà.
On rappelle que Lyon n'a plus gagné de titre depuis 2012.
Hein. 2012, bah, Coupe de France d'ailleurs.
Exactement.
Donc voilà, je pense que... à un moment, si l'OL maîtrise bien... Sûrement, l'intérêt de l'OL, c'est de réussir ces 2-3 prochaines journées pour arriver en quart de finale de la Coupe de France en se disant, bon, on peut mettre la grosse équipe, entre guillemets, le jouer à fond parce que là, ça vaut le coup et pas de se planter comme à Nantes en Coupe de France l'année dernière, il me semble. Donc voilà, l'OL, je pense qu'aujourd'hui, c'est redressé dans le sens où il a plus à gagner qu'à perdre, à mon avis. Je ne tirerai pas de plan sur la comète parce que ça reste toujours fragile. Encore une fois, on voit suffisamment de retournement de situation pour, et puis l'OL n'est même mathématiquement pas dans la situation de pouvoir se voir trop beau, mais en tout cas je pense que voilà, faut surveiller le prochain mois et c'est là qu'on saura quelle tournure va prendre la fin de saison de l'Olympique Lyonnais.
Peut-être que ce sera même une fin de saison de transition. Tu as parlé de la Cazette, tu as parlé de Tolisso. Quand on voit les nouveaux arrivés, Gift Orban, voilà, Tolisso, rôle un peu pas clair, Lopez, challengé par Perry. Peut-être qu'une fois que Lyon sera maintenu, on sera surtout sur la préparation de la saison d'après, sans ces symboles lyonnais qui sont malgré tout encore au cœur du redressement de l'OL. Merci Maxime. On s'auto-juge ?
Bah oui, puisque on a perdu nos spectateurs.
C'est vrai. C'était pas mal. Plus brillant qu'avec Martin.
Ouais, ça c'est
moins
sûr.
Bavard. Écoute, on a pas... plus analytique. Voilà.
On n'a pas perdu au change. Ouais. Voilà, c'était plus sérieux, plus précis. Même dans la préparation de l'émission, tu vois, il y avait une autre atmosphère des autres ondes que Martin, qui papillonne dans tous les sens. Voilà. On aime bien Martin, mais bon, il a fait son temps, c'est comme ça. Hein.
Je sens que sa réponse dans 2 semaines, du coup, sera sanglante.
J'espère.
Oui, on l'espère aussi. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle que le FC Stream Team est à retrouver sur les plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC et en prime, vous avez Tour d'Europe le lundi, qui est revenu lundi dernier. Tour d'Europe, on parlera notamment du choc PSG-Real Sociedad de mercredi, ce lundi dans Tour d'Europe. Et puis, si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr. pour retrouver les meilleurs moments. Rendez-vous sur Eurosport ce week-end aussi pour notamment les mondiaux de biathlon. On a vu un relais mixte incroyable hier avec une Julia Simon retrouvée. Ça reprend dès ce vendredi et il y en aura tout le week-end. Donc abonnez-vous et connectez-vous à Eurosport.
On dit merci à Adrien Yo aux manettes.
Et Marco Popovic au visuel.
Au visuel, Adrien rigole pas là. Je vois qu'il prend des petites notes, il prend les petits titres, il peut pas s'arrêter, il y a tellement de punchlines.
Ça va trop vite.
Je crois qu'il a il a 2 livres déjà prêts à sortir en librairie grâce à nous.
Merci beaucoup et à bientôt.
Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.